Chapitre 29.
D'après vous, demanda Berdine, qu'est-ce que ça signifie?
Verna soutint le regard de la mort de Cite aux splendides yeux bleus. À part le doux bruissement des lampes à huile, on n'entendait pas le moindre bruit dans la bibliothèque. Il y régnait également une pénombre rassurante, que la lumière des bougies et des lampes ne parvenait pas à troubler vraiment. Si Verna avait allumé tous les déflecteurs accrochés le long des murs et au bout de certaines étagères, il aurait pu faire beaucoup plus clair. Mais pour ce que Berdine et elle entendaient réaliser, ça ne paraissait pas indispensable. En fait, la dame abbesse craignait qu'une illumination trop vive ne soit pas adaptée à un tel sanctuaire. C'était aussi pour ça qu'elle sélectionnait avec soin les volumes à retirer des interminables rangées. Ramener trop de vie en ces lieux risquait d'éveiller les spectres de tous les seigneurs râles qui les avaient hantés au fil des siècles. Sur les imposantes colonnes qui séparaient à intervalles réguliers les hauts rayonnages, des sculptures à l'image de lianes et de feuilles reprenaient les motifs gravés sur les solides poutres apparentes qui se croisaient au plafond. On distinguait aussi sur ces éléments d'architecture de mystérieuses runes peintes plutôt que sculptées. Sur le sol, d'épais tapis ornés de frises géométriques étouffaient les bruits de pas des visiteurs. Partout, où qu'on tournât le regard, des livres attendaient le bon vouloir des érudits, des lettrés et des scientifiques. Les ouvrages les plus précieux étant rangés dans des vitrines, il se révélait un peu plus difficile de lire le titre écrit en lettres d'or sur le dos de leur reliure de cuir, surtout avec une lumière minimale. Verna n'avait jamais vu une bibliothèque si majestueuse. Les catacombes du Palais des Prophètes, où elle avait passé une grande partie de sa vie à étudier, contenaient également des milliers de livres, mais elles avaient toujours été un lieu strictement utilitaire, un espace pratique pour entreposer des ouvrages et les consulter. Ici, au contraire, la beauté architecturale et la sophistication des ornements témoignaient d'une authentique vénération pour les volumes et leur contenu. Le savoir était la clé de la puissance. Depuis que la lignée râle régnait sur Dara, elle avait apporté de la main des trésors de connaissances. D'après ce qu'en savait Verna, peu de seigneurs râles en avaient fait bon usage, mais c'était une autre question. Face à une telle abondance, il n'y avait qu'un problème. Comment retrouver dans une pareille collection les textes qu'on cherchait? En supposant qu'ils existent, ce qui n'était pas facile à prouver, ni à infirmer d'ailleurs. Par le passé, des scribes se chargeaient de la mise à jour permanente d'un énorme thésaurus. Même s'ils étaient avant tout formés pour copier les ouvrages les plus importants et garantir ainsi qu'ils accèdent à la postérité, ces hommes avaient les qualités requises pour gérer et organiser des sections entières de la bibliothèque. En les questionnant intelligemment, leur maître pouvait être très vite orienté sur les grimoires ou les recueils kabbalistiques qui répondraient à ses attentes. Aujourd'hui, en l'absence de conservateurs qualifiés, les informations nichées dans les milliers de livres avaient tendance à glisser comme des anguilles entre les doigts des visiteurs. Paradoxalement, l'abondance de biens nuisait, en tout cas dans ce contexte particulier. Comme un soldat portant beaucoup trop d'armes, le cœur intellectuel du palais du peuple souffrait d'une limitation drastique de sa mobilité. Les livres présentés dans une seule salle contenaient une incroyable quantité de contributions scientifiques, littéraires ou magiques, signées par les plus grands érudits et la quasi-totalité des prophètes connus. En explorant quelques-unes des diverses ailes, Verna avait découvert des traités de géographie, d'histoire, de politique, de sciences naturelles et même d'arts divinatoires dont elle n'avait jamais entendu parler. La dame abbesse aurait pu passer sa vie entière dans une seule salle sans s'ennuyer une seconde, et à en croire Berdine, il y en avait des dizaines et des dizaines. Sans même parler des salles interdites au public, où seul le seigneur râle et ses plus fidèles conseillers avaient le droit d'entrer. Celles que Verna et Berdine découvraient actuellement se rangeaient dans cette catégorie. Parce qu'elles comprenaient le haut d'Aran, la mort de Cite avait eu le privilège d'accompagner assez souvent Darkenral dans ce sanctuaire. Son maître lui demandait son avis sur les traductions de passages énigmatiques piochées dans de très anciens textes. Du coup, elle était une des rares personnes à avoir une idée assez précise du trésor culturel, potentiellement explosif en l'occurrence, jalousement conservé au cœur du palais.
Toutes les prophéties n'étaient pas nuisibles, heureusement. La plupart se révélaient parfaitement inoffensives et d'une insignifiance sidérante. Si difficile que ce fût à comprendre pour les profanes, la majorité des prédictions n'étaient pas plus fiables que de vulgaires commérages. Mais il ne fallait surtout pas se laisser abuser par cette apparente innocuité. Si on baissait la garde, l'esprit endormi par les péripéties de la vie quotidienne, on devenait trop confiant et le drame jaillissait au détour des pages d'un recueil apparemment anodin. Une minute d'inattention suffisait pour que de sombres créatures bondissent hors d'un recueil pour s'emparer de l'âme d'un innocent lecteur. Alors que certains livres de prophétie n'auraient pas fait de mal à une mouche, certains autres étaient mortellement dangereux de leur premier mot jusqu'au dernier. La salle qu'exploraient les deux femmes abritait les recueils de prophéties les plus redoutables de l'histoire. Au palais des prophètes, ces ouvrages, jugés trop sulfureux, n'étaient pas conservés dans les catacombes principales, mais dans une pièce annexe à l'accès strictement limité et défendue par des sortilèges. Verna et Burdin sillonnaient les allées d'un sanctuaire longtemps réservé au seul seigneur Ral. Sans la présence de la mort de Sith, la dame abbesse, malgré son statut d'alliée de Richard, n'aurait sans doute pas été autorisée à entrer. Verna se serait volontiers attardée dans cet endroit luxueux et confortable où d'innombrables volumes s'offraient à sa curiosité. Hélas, le temps était un luxe dont elle ne disposait pas. Richard avait-il eu l'occasion de profiter des merveilles qui étaient désormais siennes? Verna en doutait car le pauvre garçon n'avait guère eu de répit ces derniers mois. Burdin tapota du bout de l'index une des pages blanches qu'elle avait trouvées dans le livre de Glen Hill sur la théorie de la déviation. « Dame Abbesse, je vous le répète, j'ai étudié ce livre avec le seigneur Ral dans la bibliothèque de la forteresse du sorcier, en Aydindril. »« Si tu le dis. » Verna jugeait intéressant, pour employer un doux euphémisme, que Richard ait eu connaissance de cet ouvrage. Sachant à quel point il se méfiait des prédictions, elle estimait encore plus surprenant qu'il ait étudié un recueil dont la plupart des textes parlaient très spécifiquement de lui. La dame abbesse semblait ne pas avoir fini de découvrir des choses étonnantes au sujet du sorcier. Richard se méfiait des prophéties parce qu'il avait une sainte horreur des charades et des énigmes. Il leur avait tourné le dos parce qu'il croyait dur comme fer au libre arbitre. C'était lui-même, pas le destin, qui déterminait sa vie, et il rejetait tout ce qui pouvait laisser penser le contraire. Terriblement complexe et sujette à des interprétations contradictoires, au point que la majorité des gens s'y noyaient, les prophéties existaient bel et bien, et elles militaient en faveur de l'existence d'une prédestination incontournable. Cela dit, Richard avait plus d'une fois contribué à la réalisation d'une prophétie, tout en démontrant qu'elle était fausse. Soupçonneuse de nature, Verna se demandait si les grimoires avaient prévu la naissance de Richard, afin qu'il puisse un jour prouver l'inanité du concept même de destinée. Les actes du sorcier n'avaient jamais été faciles à anticiper, même et surtout pour les prophéties. Au début, Verna avait été stupéfiée par tout ce que faisait Richard. Aujourd'hui encore, elle était incapable de prévoir ses réactions face à l'événement le plus insignifiant. Mais elle avait appris cependant que la façon dont il sautait d'un sujet à un autre, apparemment sans qu'il y ait de rapport entre les deux, était en réalité l'expression d'une impeccable logique et d'un esprit hautement organisé. Mais c'était sa logique et son idée de l'organisation. Les gens étaient en règle générale incapables de rester concentrés sur un sujet sans que rien ne puisse les en détourner. La vie de tous les jours n'était pas avare en soucis, en tracas et en avanies à traiter d'urgence. Comme dans un combat à l'épée lorsqu'il affrontait plusieurs adversaires, Richard avait l'art de classer les événements selon leur ordre de priorité. Les mettant de côté pour plus tard, ou trouvant une solution sur le champ, il ne perdait pas pour autant de vue son objectif originel. Ses interlocuteurs avaient parfois l'impression qu'il sautait du coq à l'âne. En fait, il traversait le fleuve de la vie en passant allègrement de pierre de guet en pierre de guet, une manière très efficace d'aller d'une rive à l'autre sans se mouiller inutilement. À certains moments, Richard était l'homme le plus extraordinaire que Verna eût jamais croisé. À d'autres, il lui tapait sur les nerfs, et elle ne comptait plus les occasions où elle l'aurait volontiers étranglé de ses mains. S'il était né pour guider ses compagnons lors de la bataille finale, Richard avait aussi réussi, sur ses seuls mérites, à devenir le chef incontesté du mouvement de résistance à l'ordre impérial. Aujourd'hui, le Seigneur Hall incarnait toutes les valeurs que la Dame Abbesse défendait depuis des décennies aux côtés des Sœurs de la Lumière. Exactement ce qu'annonçaient les prophéties. Mais dans le détail, rien ne correspondait à ce qu'elle prédisait. Par exemple, avant d'être son chef et son guide, Richard était pour Verna un merveilleux ami. Du coup, elle aurait voulu qu'il connaisse le bonheur, comme elle avec Warren. Tout ce que Verna avait partagé avec Warren lui laissait un souvenir émerveillé. Et leur vie commune, après une extraordinaire cérémonie de mariage, avait été une bien trop courte plage de bonheur et d'harmonie. Depuis la mort de son bien-aimé, Verna se considérait comme un spectre, un être certes vivant mais qui n'appartenait plus vraiment au monde. Étrangement, si Warren avait quitté la vie, c'était elle qui se transformait en fantôme. Parfois, elle se demandait si ses amis avaient conscience que leur regard finirait par la traverser. Un jour, lorsque l'ordre serait vaincu, il faudrait que Richard se trouve une compagne. La Dame Abbesse le lui souhaitait de tout cœur, car il aimait trop la vie pour continuer à n'avoir personne avec qui la partager. Verna eut l'ombre d'un sourire. Depuis leur rencontre, lorsqu'elle l'avait capturé, lui mettant un collier autour du cou afin de le conduire au palais des prophètes, le cyclone qui se nommait Richard l'avait entraîné dans une course de plus en plus folle. Elle n'oublierait jamais ce jour d'hiver dans le village du peuple d'Adobe, où elle avait enfin mis la main sur lui. L'événement n'avait rien eu de joyeux puisqu'elle avait dû faire de Richard son prisonnier, mais elle avait éprouvé un soulagement extraordinaire après une quête longue de quelques 20 ans. Le jeune sourcier n'avait pas coopéré, c'était le moins qu'on pouvait dire. Les deux sœurs qui accompagnaient Verna étaient mortes en essayant de lui faire mettre le Radahan qu'il détestait tant. Verna plissa soudain le front. Mettre le Radahan qu'il détestait tant. Comme c'était bizarre. Elle ne se rappelait plus comment elle s'y était prise pour lui imposer le collier magique. Après avoir été prisonnier d'une mort de Sith, Richard ne supportait plus d'avoir un collier autour du cou. Pourtant, il avait fini par s'y résoudre. Pour une raison qui la dépassait, Verna avait oublié les détails de cette affaire qui ne remontait pourtant pas à très longtemps.
« C'est étrange, »
marmonna soudain Burdin. Le cuir marron de son uniforme craqua lorsqu'elle se pencha pour mieux étudier l'antique livre posé sur la table juste devant elle. Elle tourna une page, l'examina, revint en arrière.
« Il y avait des paragraphes à cet endroit. Verna, j'en mettrai ma tête à couper, et maintenant il n'y a plus rien. »
Verna s'arracha à ses souvenirs, lointains et récents, et dévisagea la mort de Sith avec un intérêt sincère.
« Parce que ce n'est pas le même livre, mon ami. »
Voyant Burdin froncer les sourcils, la Dame Abbesse précisa sa pensée.
Le titre était identique, mais il ne s'agissait pas de cet exemplaire-là. Tu étais dans la forteresse du sourcier, pas vrai? Du coup, ce n'est pas le même ouvrage que tu étudies ici.
C'est vrai, concéda Burdin.
Elle se redressa et passa une main dans ses magnifiques cheveux bruns.
Mais si le titre est identique, comment expliquez-vous que le texte ne soit pas le même? L'exemplaire de la forteresse n'est pas truffé de pages blanches.
J'ai compris, mais qu'est-ce que ça prouve? Avec Richard, tu as étudié un exemplaire différent de cet ouvrage. Tu te souviens d'avoir lu certains paragraphes qui manquent dans ce grimoire?
Verna désigna l'ouvrage sur la table.
Là encore, quelle conclusion en tirer? N'as-tu pas pu oublier ces passages? Quant aux pages blanches, le copiste qui a réalisé cet exemplaire a pu décider de les ajouter pour je ne sais quelle raison.
« Et pourquoi aurait-il fait ça ?»
insista Burdin.
« Je viens de dire que je n'en sais rien. Parfois, il arrive qu'on laisse du blanc entre deux prédictions incomplètes. Ainsi, les prophètes à venir pourront achever la prédiction. »
Obstiné, Burdin plaqua les poings sur les hanches.
« Admettons. Mais j'ai une question. Quand je consulte cet ouvrage, je mémorise les passages que je lis. Je ne comprends pas vraiment tout, mais... l'image du texte se grave dans ma mémoire. Comment se fait-il que je n'ai pas le moindre souvenir des passages manquants alors que je les ai lus?
Parce qu'ils n'existent pas, tout simplement. Les blancs ont été ajoutés par le copiste, et il n'y a rien à se rappeler.
Non, vous ne comprenez pas.
J'ai mémorisé les prophéties de façon globale, par exemple en notant leur longueur. Une magicienne comme vous aurait été distraite par le sens de ces passages. Moi, je n'ai jamais rien saisi de ces prédictions, mais je me souviens de leur, allure générale. Au sujet de la longueur, par exemple, je n'ai pas le moindre doute. Ces prophéties ne sont plus complètes. Vous voulez une confidence? Comme je n'y comprenais rien, je me demandais comment on pouvait interpréter des prédictions si longues et si fumeuses. Quand un texte est difficile à comprendre, il paraît toujours plus long. Non, l'explication n'est pas là. Burdine tourna les pages pour atteindre le début de la dernière prophétie. Cette prédiction est très courte, et elle est suivie par plusieurs pages blanches. Sans la comprendre mieux que les autres, je me suis plus longuement penché sur l'ultime prédiction. Alors, quand je dis qu'elle était plus longue, vous pouvez me croire. Dans mon exemplaire du livre, elle prenait plusieurs pages, j'en suis certaine. Si fort que j'essaie, je ne me souviens pas du contenu de cette prédiction, ni de sa longueur exacte, mais je sais qu'elle s'étendait sur plusieurs pages. Exactement la confirmation qu'attendait Verna. Si la suite dépasse ma compréhension, continua Burdine, je me souviens de l'introduction. On y parle d'une prophétie à fourche, de la difficulté de revenir sur ses pas quand on s'est trompé de route, et de la division d'une horde qui trahit la cause du Créateur. Là, je vois une allusion à l'ordre impérial. Mais après la conclusion du paragraphe, à savoir « un chef perd la confiance », je n'ai plus le moindre souvenir de ce que disait le texte remplacé par des pages blanches. Verna, ce n'est pas un tour de mon imagination. Je ne sais pas pourquoi, mais je maintiendrai sous la torture qu'il manque une partie du texte. Et voilà ce qui me tourmente. Pourquoi ces passages-là se sont-ils effacés de ma mémoire ?
Verna se pencha vers la mort de Sith et fronça les sourcils.
« Tu veux une confidence, ma chère ? Je me pose la même question. Et elle m'inquiète beaucoup. »
Burdine ne cacha pas sa surprise. « Vous comprenez ce que je veux dire ? Et vous me croyez ?
Je crains que oui. Je ne voulais pas t'influencer, donc j'ai joué les sceptiques. Et tu as confirmé mes soupçons.
C'est ça qu'Anna nous demandait de vérifier, le fameux point qui la tracassait.
Exactement.
Verna chercha dans les piles de livres qui trônaient sur la table et trouva assez vite celui qu'elle voulait.
Tu vois cet ouvrage? C'est celui qui me perturbe le plus. Conte des origines est un recueil de prophéties très particulier. Le seul à ma connaissance qui soit rédigé comme un roman. Avant de quitter le palais des prophètes pour me lancer à la recherche de Richard, j'ai étudié ce volume. Je le connaissais pratiquement par cœur.
Verna tourna nerveusement les pages du livre.
Il n'y a plus que du blanc, et je ne me rappelle plus rien du texte, sinon qu'il parlait de Richard.
Burdine sonda le regard de la dame abbesse avec l'acuité agressive qui n'appartenait qu'aux morts de Sith.
« Si je comprends bien, nous avons un problème et il concerne le seigneur Hall. »
Verna s'autorisa un gros soupir qui fit vaciller la flamme des bougies les plus proches.
« Prétendre le contraire serait un affreux mensonge. Le texte ne parle pas exclusivement de Richard, mais il traite d'une époque postérieure à sa naissance. Je n'ai pas idée de la nature précise du problème, mais je reconnais qu'il m'angoisse beaucoup. »
Le comportement de Burdine avait changé. D'habitude, elle était la plus aimable de toutes les morts de Sith que Verna connaissait. Contrairement à ses collègues, il se dégageait d'elle une véritable joie de vivre, qui avait parfois quelque chose de l'enfance. Parfois, sa curiosité de petite fille était attendrissante. Bien qu'elle ait subi des épreuves qui auraient aigri n'importe qui, elle souriait très souvent et sans la moindre hypocrisie. Mais dès que la sécurité du seigneur Hall était en jeu, elle redevenait une garde du corps loyale et impitoyable. En cet instant, Verna aurait pu être face à n'importe quelle mort de Sith.
Quelle est la cause de ce problème? Que veut dire toute cette histoire?
Verna referma le livre truffé de pages blanches.
Je n'en sais rien, Burdine. Anna et Nathan sont aussi désorientés que nous. Tu te rends compte? Un prophète qui avoue son ignorance.
Que veut dire la phrase sur le chef qui perd la confiance de ses troupes?
Pour une non-initiée, Burdine avait sacrément bien déchiffré une prophétie plutôt alambiquée, nota Verna.
Il peut y avoir une multitude de sens différents. C'est très difficile à dire.
Pour moi, sûrement, mais pas pour vous, je parie.
Je ne suis pas experte en prédiction, mais je suppose que Richard est visé.
Ça, j'avais compris.
Mais pourquoi les gens perdraient-ils confiance en lui?
Mon ami, les prophéties ne sont jamais aussi simples qu'elles le semblent.
Verna aurait donné cher pour que Burdine cesse de la dévisager ainsi.
Le sens premier est rarement pertinent, car il y a des...
Dame abbesse. Ce texte avance qu'un chef perdra la confiance des siens à cause de troubles mentaux. Les siens, peut-on déduire?
Comme on parle de l'homme qui combat les faux fidèles du Créateur, il faut conclure qu'il s'agit du Seigneur Ral.
La référence à la division de la Horde indique que cette prédiction concerne la période présente, puisque Jagang vient de séparer ses forces. Bref, la menace est imminente.
Verna eut une pensée émue pour tous les gens qui avaient un jour commis l'erreur de sous-estimer Burdine à cause de son apparence avenante.
Les prédictions ont tendance à en rajouter au sujet de Richard. Parfois, on dirait qu'elle veille sur lui à la façon des mères poules.
Le danger me paraît évident et très bien décrit.
Burdine, tu es une femme intelligente. Tu comprendras donc, j'espère, que je commettrai une grave erreur en glosant en ta compagnie au sujet de cette prophétie. Les prédictions sont réservées à ceux qui ont le don. Les qualités d'une personne ne comptent pas. Ces textes ont été rédigés par des prophètes et ils s'adressent à d'autres prophètes. Pour tout te dire, ils ne sont pas faits pour être lus par des sorciers classiques. Les sœurs de la lumière elles-mêmes doivent suivre une formation de plusieurs décennies avant de pouvoir poser les yeux sur une prophétie. Pour oser l'interpréter, il faut toute une vie d'expérience. Si des profanes s'y essaient, ils prennent d'énormes risques, car s'ils reconnaissent des mots, ils ne sont pas à même de saisir leur sens.
C'est idiot. Les mots ont un sens, pas 50. C'est la base même de la communication. Pourquoi les prédictions s'amuseraient-elles à semer le trouble dans les esprits?
Verna comprit que la conversation s'engageait sur une pente très glissante.
Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Les mots peuvent être utilisés comme des lieux communs. Cette appellation n'a rien de péjoratif. Elle signifie simplement qu'ils sont un point de ralliement où tous ceux qui pratiquent la même langue peuvent se retrouver.
Les mots servent aussi à exprimer des spéculations, et dans ce cas, ils sont nécessairement ambigus.
Si je prédis que tu vivras bientôt des moments sombres, cela peut faire allusion à un deuil qui te désespérera, ou à un accident qui te coûtera la vie, ou encore à une rencontre malheureuse avec un assassin. Les mots ne mentent pas dans mon exemple. Pourtant, leur sens exact nous est pour le moment inconnu. Tuer tous les gens qui t'entourent pour ne pas être tué serait une grave injustice, puisque nous ne savons pas si tu seras vraiment victime d'un meurtrier. Des erreurs d'interprétation ont provoqué des guerres et des milliers de gens ont péri à cause de l'imprudence de personnes non initiées. C'est pour ça que les recueils étaient conservés dans les catacombes du palais des prophètes.
Ici, on n'a pas pris une telle précaution.
Eh bien, on aurait sans doute dû.
Si je comprends bien, vous pensez que mon interprétation de la prédiction est fausse?
Non, parce que dans un cas pareil, il est impossible de distinguer le vrai du faux. Pour commencer, il est vain de vouloir interpréter sérieusement une prophétie incomplète. Les pages blanches nous empêchent d'aller plus loin dans notre réflexion.
Et alors?
Alors, il est possible que tu aies raison. Les gens pourraient douter du jugement de Richard et perdre confiance en lui. Mais comment savoir si la suite du texte ne raconte pas que cette crise a duré moins d'une journée et que les fidèles du sourcier ensuite l'ont suivi avec encore plus d'enthousiasme? Une prédiction peut être à fourche, mais ce n'est pas tout. Il arrive qu'elle dise une chose et son contraire.
Je ne vois pas comment il est possible de prédire un événement et son exact opposé. Et je doute que la suite de cette prophétie particulière puisse en modifier radicalement le sens.
Tout en regardant autour d'elle, Verna réfléchit à un exemple convaincant.
« Eh bien, » dit-elle après un court moment, « imaginons que les gens jugent absurde le plan de bataille de Richard. Peut-être à cause de l'opinion négative de certains officiers supérieurs. Dans une situation pareille, il serait normal que le peuple perde confiance en son chef. Maintenant, supposons que Richard passe outre l'avis des militaires.
Malgré leurs doutes, les officiers et les soldats obéiraient parce qu'ils sont loyaux au seigneurial. Pour finir, postulons que notre armée remporte une victoire aussi décisive qu'inespérée. Ne crois-tu pas que Richard serait encore plus vénéré qu'avant? Comprends-tu maintenant pourquoi il est interdit d'interpréter une prophétie incomplète? Si nous nous emballions, nous pourrions dès aujourd'hui multiplier les efforts pour que les gens ne perdent pas confiance en Richard. Au mieux, ce serait une perte de temps puisque tout doit s'arranger sans effort. Au pire, notre propagande risquerait d'éveiller les soupçons du peuple. Si on nous dit de ne pas perdre confiance, c'est qu'il doit y avoir anguille sous roche. Du coup, en essayant d'éviter un problème, on contribue à le créer.
Oui, présenté comme ça, ce n'est pas si bête.
Tu saisis maintenant pourquoi les prédictions sont une source de confusion, même pour les prophètes et les sœurs de la lumière? Alors, quand elles sont incomplètes par-dessus le marché, c'est en partie pour ça que l'affaire des pages blanches m'angoisse.
En partie, répéta Burdine. Il y a d'autres raisons de s'inquiéter?
Oui. La cause de ces disparitions de textes. Quelle catastrophe peut avoir provoqué un événement sans précédent?
Pourquoi parler d'une catastrophe? Je croyais qu'il fallait se garder des conclusions hâtives en matière de prophétie.
Verna eut le sentiment de s'être pris les pieds dans un piège à loup qu'elle venait juste de poser. Décidément, Birdie n'était pas une interlocutrice facile.
« Tu as raison, mais dans le cas qui nous occupe, quelque chose ne tourne pas rond, c'est évident. »
Et vous avez une hypothèse?
Pas l'ombre d'une idée, non? Comme je l'ai dit, c'est sans précédent. Honnêtement, je n'y comprends rien.
Mais vous pensez que le Seigneur Hall est concerné?
C'est une conclusion logique lorsqu'on pense à ce qui est arrivé au Comte des Origines. Richard est un acteur majeur de l'histoire. Il se trouve au centre de tout ce qui peut modifier le cours des événements. En un sens, il est à la source de tous les problèmes.
C'est pour ça qu'il a besoin de nous,
lâcha Burdine, fort mécontente de la dernière phrase.
Ai-je jamais dit le contraire?
La mort de Sith se détendit un peu.
C'est vrai, mais vous n'avez jamais prétendu qu'il fallait nous détourner de lui.
Anna cherche Richard. Espérons qu'elle le trouvera vite, car nous aurons besoin de lui lors de la bataille finale.
Burdine s'approcha d'une étagère protégée par une vitre, l'ouvrit, en sortit un ouvrage et entreprit de le feuilleter.
Le Seigneur Hall est censé être la magie qui s'oppose à la magie, pas l'acier qui affronte l'acier.
C'est un dicton d'Aran, dit Verna. Les prophéties, elles, affirment qu'il sera notre tête lors de la bataille finale.
Si vous le dites, marmonna Burdine sans même lever les yeux de son livre.
Avec les troupes de Jagang qui contournent actuellement les montagnes pour nous attaquer par le sud, il faut espérer qu'Anna nous ramènera très vite, Richard.
Burdine n'avait visiblement pas écouté. En revanche, quelque chose dans sa lecture venait de la faire sursauter.
« Qu'est-ce qui est enterré avec les ossements ? »
demanda-t-elle.
« Plaît-il ? »
Le front plissé, la mort de Sith resta concentrée sur l'ouvrage.
Ce volume avait attiré mon attention à cause de son titre,
dit-elle après quelques instants d'intense réflexion.
Fuer Grissa Ost Draoka. C'est du haut d'Aran, et ça signifie
le messager de la mort,
coupa Verna.
C'est ça, oui. Comment le savez-vous?
Au palais des prophètes, les sœurs débattaient sans fin sur une prédiction bien précise. En fait, on en discutait depuis des siècles. Le jour de son arrivée au palais, Richard a annoncé qu'il était le messager de la mort. Par là même et sans le savoir, il reconnaissait être l'homme dont parlait cette prophétie. Cette révélation a fait du bruit dans tous nos couloirs, tu peux me croire. Plus tard, Warren a montré le texte à Richard, qu'il a interprété sans aucune difficulté. Rien de plus logique, car à ses yeux, ce n'était pas une énigme, mais le récit d'une partie de sa vie.
Burdine brandit le livre qu'elle venait de refermer.
« Cet ouvrage est truffé de pages blanches. »
C'est normal, puisqu'il parle de Richard, comme bon nombre des grimoires conservés ici, je parie.
La mort de Sith rouvrit le livre et reprit sa lecture.
« C'est du haut d'Aran et je pratique cette langue.
La traduction sera un gros travail et le texte manquant ne me facilitera pas la tâche, mais j'y arriverai. Ce passage, par exemple, parle du seigneur Hall et dit que ce qu'il cherche est enterré avec les ossements, ou qu'il cherche des ossements enterrés. La syntaxe est ambiguë. Vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire?
Cette histoire d'ossements? Navré, mais je n'ai pas de piste à te proposer. La plupart de ces ouvrages doivent nous apprendre des choses fascinantes, intrigantes ou terrifiantes sur Richard. Mais s'il manque des passages, nous ne pourrons rien en tirer.
Je comprends. La notion de sites centraux vous dit quelque chose?
Des sites centraux?
Oui. On en parle à plusieurs endroits dans ce livre. Les sites centraux. Burdin s'immergea dans ses souvenirs. Je crois que Colo les mentionne quelque part.
Colo?
Un sorcier qui a écrit son journal à l'époque des Grandes Guerres. Le seigneur Hall a retrouvé le texte dans la salle de la Slif. Le sorcier vivait dans la forteresse en Aïdindril et son nom complet était Coloblissin. En Odaran, ça veut dire « grand conseiller ». Le seigneur Hall et moi avons adopté le diminutif Colo.
Et que disait-il sur les sites centraux, votre Colo?
Je ne m'en souviens plus. À l'époque, ce n'était qu'une énigme parmi des dizaines. Il faudra que je me replonge dans le journal. De mémoire, je dirais que des choses sont enfouies dans les sites centraux, mais impossible de me souvenir si Colo précise de quoi il s'agit.
Burdin baissa les yeux et étudia de nouveau son livre.
J'espérais trouver un indice dans ce texte.
Verna regarda autour d'elle et soupira.
J'aimerais rester ici et découvrir les trésors contenus dans ces pages, mais le temps presse. Nous devons aller retrouver l'armée et mes sœurs de la lumière.
À contre-cœur, Burdin referma le livre et le remit à sa place.
D'accord, Dame Abbesse. Que voulez-vous voir maintenant ?